Il est 18h à Kinshasa, 19h à Bunia, en Ituri. Bienvenue à l'écoute de votre journal Vespéral.
Radio Capi.
Au sommaire, cet appel de l'archevêque de Kisangani aux rebelles ougandais des ADF, mais aussi aux jeunes Congolais qui ont rejoint ce mouvement. Marcel Outembi demande qu'ils arrêtent de s'en prendre aux populations à Mambasa. Et puis ce conflit foncier au Kasaï central qui tourne au drame et est à la base de plusieurs morts, des blessés graves et beaucoup de maisons incendiées. C'est après deux jours d'affrontement entre les habitants des deux villages en territoire de Dibaya. La 11e édition du festival Amani a démarré ce vendredi au complexe scolaire Kiwele de Lubumbashi. Pour une première fois, Léo Katanga accueille cet événement phare de la ville de Goma. Nous en parlons avec notre invité, Vianney Bissimwa, bénévole et membre du comité d'organisation. Merci d'être avec nous, Dieudonné Nyangassa et Pierre Diassinois assurent la technique. Devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'archevêque métropolitain de Kisangani, Monseigneur Marcel Outembi, appelle les rebelles ADF, composés selon lui aussi des jeunes Congolais, à cesser de s'en prendre aux populations civiles dans les territoires de Mambasa. Le prélat catholique s'est exprimé hier jeudi à Bunia, à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur de province, à la tête d'une délégation d'évêques. Il appelle également la population à s'impliquer davantage dans les efforts de sécurisation de cette région, régulièrement ciblée par les attaques des ADF. Un extrait de sa déclaration, recueilli par Martial Kizabiamungu.
Le territoire de Mambasa fait l'objet des menaces des forces négatives. De ces forces négatives, particulièrement les ADF, qui sont très actives dans cette région. Nous, comme population, comme société civile, comme fidèles, nous investir aussi à donner notre contribution à l'installation, à la consolidation de la paix, de la sécurité. En fait, dans les ADF, il y a des Congolais aussi. Il n'y a pas que d'Ougandais ou des étrangers. Alors, nous lançons un appel, nous lançons un message fort pour que ces frères et sœurs qui sont dans l'ADEF puissent se désengager. La vie humaine est très sacrée. Les besoins sont encore là de créer de nouvelles paroisses. Et coup de chapeau à tous les animateurs, du côté politique, du côté ecclésiastique, du côté militaire, du côté société civile. Je donne coup de chapeau et qu'ils aillent de l'avant. Et ça fait notre fierté.
Cette délégation des évêques est allée annoncer à l'exécutif provincial l'installation du nouvel évêque de Wamba, Emmanuel Nguna, prévu ce mois d'avril à Mambasa Centre. Par ailleurs, la situation sécuritaire dans l'est du pays s'est invitée à la 17e conférence des présidents d'assemblées et des sections Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF en sigle. Rencontre tenue du mercredi à hier jeudi à Lomé, au Togo. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale congolaise, Aimé Bodji Sangara, a dénoncé le manque d'action concrète de l'APF face à la crise dans l'est du pays, malgré plusieurs rapports adoptés. Il déplore un décalage entre les engagements et leur mise en œuvre dans un contexte d'instabilité persistante. Il alerte également sur la menace croissante des ADF et appelle à des mesures concrètes au-delà du cadre protocolaire. Je vous propose de suivre Aimé Bodji Sangara dans cet extrait proposé par Grâce Amzati Masanzi.
Nous insistons en rappelant ici à tout le monde que la situation en RDC affecte toute l'Afrique. On ne le dit pas assez. Parce que très souvent, on pense que bon, lorsque ça brûle au Moyen-Orient, à cause du pétrole, tout le monde est concerné. Mais la situation en RDC concerne d'abord les pays voisins, mais ensuite notre pays détient des ressources et des atouts qui font de notre pays, hein, nous l'appelons pays solution, lorsque vous regardez les questions environnementales, l'énergie, nous avons le projet Grand Inga qui peut fournir l'électricité à toute l'Afrique. Et donc lorsque la RDC est en panne, il est difficile pour notre continent et pour l'espace francophone de réaliser ses ambitions de développement. Puisqu'on a parlé du terrorisme ici, je voudrais attirer l'attention de notre organisation sur la situation des ADF. Ils sont en train de causer beaucoup de dégâts sur le plan humain. Je voudrais donc que nous puissions inscrire parmi les questions préoccupantes pour l'espace francophone cette milice islamiste qui cause mort et désolation à l'Est et pourquoi pas envoyer une mission aussi pour s'enquérir davantage.
Sur terrain, dans le sud Kivu, des nouveaux affrontements ont lieu dans les hauts plateaux de Kalehe. Les combats se sont poursuivis ce vendredi sur plusieurs axes de ces territoires, notamment Katale-Mubugu, où les FRDC affirment avoir repoussé hier jeudi une tentative des rebelles de l'AFC M23 de s'emparer des localités de Tutsunguti et Nyamugali. Conséquence directe de ces affrontements, des milliers de personnes ont fui le combat vers Walikale dans la province voisine du Nord Kivu, selon la société civile. Que retenir à ce sujet, Jean Gandou?
Le climat sécuritaire s'est détériore dans la zone depuis mardi passé lorsque les rebelles de l'AFC M23 ont lancé des assauts sur les positions tenues par les Wazalendo dans deux grandes agglomérations, Ziralo et Tutsunguti. Le porte-parole des FRDC confirmait hier que les deux entités étaient tombées sous contrôle des rebelles le mercredi passé. Depuis ce jour-là, des milliers de populations civiles se sont déplacées en direction de Walikale en traversant péniblement la rivière Kaolo. Le porte-parole des forces armées dans la zone, le sous-lieutenant Meya Jérémy, signale la reddition des 11 éléments de l'AFC M23 au FRDC.
Les forces armées de la République démocratique du Congo, du secteur opérationnel Sokola de Nord-Sud Kiv, ont accueilli 11 éléments de la coalition AFC M23 qui se sont rendus avec 5 armes type AK-47 sur l'axe Bunyakiri au territoire de Kale. Le commandant du secteur opérationnel Sokola de Nord-Sud Kiv, le colonel Kisembo Isingoma Benjamin, a saisi cette occasion pour exhorter d'autres combattants à se rendre sans crainte aux FRDC qui respectent les droits internationaux humanitaires.
La société civile du territoire de Kaélé déplore la crise humanitaire accentuée par la reprise des combats et demande aux parties belligérantes de respecter les différents accords de paix qu'ils ont signés à Doha et à Washington.
Au Kasaï central, le calme est revenu après deux jours d'affrontements entre les habitants du village Benakasenga dans le groupement de Kajangai et ceux de Bakwanga dans le groupement de Kalunga en territoire de Dibaya. L'information est confirmée par l'administrateur du territoire. Ce dernier indique que des éléments de la police nationale congolaise ont été déployés là-bas pour sécuriser la population. Il précise aussi que des enquêtes sont en cours pour identifier et traduire en justice les auteurs des accrochages qui ont opposé ces deux villages depuis mardi dernier, autour d'un conflit foncier. Il y a eu des morts, des blessés graves et plusieurs maisons incendiées. Au Nord Kivu, pendant ce temps, plus d'une dizaine de jours après le retrait des troupes de l'AFC M23 de certains villages du territoire de Walikale, les localités de Mpeti et Mindjenje dans le groupement de Kisimba restent désertes. C'est ce que révèlent les modérateurs du cadre interpaysan pour la transformation des conflits de Pinga, CITC, à l'issue d'une récente mission de terrain. Dans son rapport, Julien Bounda indique que quelques habitants commencent timidement à regagner leur village, abandonné depuis plus d'un an à la suite des combats entre l'armée et les rebelles du M23. Il appelle cependant des actions urgentes de réhabilitation des infrastructures sociales de base, principalement le centre de santé de Mpeti, totalement détruit pendant la période de guerre. Suivant son témoignage.
Dans l'aide de santé de Mpeti, le centre de santé qui porte le même nom a été complètement détruit. Suite aux événements de la guerre d'agression, les CITC Pinga réitèrent son plaidoyer au niveau des autorités provinciales, nationales, les humanitaires et autres pour qu'il y ait une reconstruction rapide du centre de santé de Mpeti. Parce qu'en fait, après le retrait des troupes de l'AFC M23 des agglomérations des villages Banakindi, la population qui avait fui ces agglomérations commence déjà à regagner le village d'Mpeti. Alors, sur le plan sanitaire, ça cause déjà un problème parce que le centre de santé a été complètement détruit. Il convient de signaler que c'est depuis le mois d'octobre 2024 que les affrontements étaient signalés autour des agglomérations d'Mpeti et qui avaient poussé les déplacements massifs de cette population vers les autres agglomérations jugées et sécurisées. Que ce soit sur les plans sanitaires, les besoins sont immenses à tous les niveaux.
Rappelons que le 26 mars dernier, les troupes de l'AFC M23 s'étaient retirées sans combat des villages d'Mpeti, Mindjenje et Kanune. Ces combattants se sont ensuite repliés vers Malemo, à l'est du même groupement de Kisimba. De nombreuses maisons écroulées, des champs détruits et un environnement saccagé. Bilan de la pluie diluvienne accompagné de vents violents hier jeudi dans l'agglomération d'Nkolo, en territoire de Banzangungu, nous sommes au Congo central. Selon le président de la coopérative agricole Luzolo Lwatoma, ces intempéries deviennent une tragique habitude, se répétant désormais deux fois l'an. Face à l'ampleur des dégâts, Victor Nzouzi lance un cri de détresse aux autorités pour une assistance d'urgence en faveur des paysans qui ont tout perdu. Il estime que cela permettra de prévenir une crise alimentaire imminente dans la région. Et puis la première édition de la conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau s'est clôturée ce vendredi à Kindu dans le Maniema. L'agriculture était au centre des débats hier jeudi. D'après les participants, le Maniema a été considéré comme un grenier agricole et il doit tout faire pour récupérer ses statuts. D'autres détails avec le ministre de l'Agriculture, Bouindo Nzangi, au micro de Florence Kizalunga.
J'ai eu l'occasion de partager avec tous les congressistes la politique du gouvernement pour ce qui concerne la relance de l'agriculture, pour que la vision du chef de l'État, la revanche du sol, si le sous-sol ne reste pas un slogan, qu'elle soit réalité. La passion que nous avons à partager en tant que fils du Kivu, celle d'encourager les peuples à se lancer dans l'agriculture, et que c'est ça qui constitue la grande réserve d'emplois, mais aussi des richesses de notre province. Je leur ai dit que le gouvernement va se concentrer sur 5 piliers. La semence avec la réhabilitation des capsa et des inera. J'ai parlé des fertilisants et des pesticides, de la mécanisation. Je me dis avec le gouverneur des provinces que les tracteurs de Maniema sont en train d'arriver. J'ai parlé aussi des stratégies de production, mais aussi je leur ai parlé des grands projets que nous avons pour le stockage, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Nous sommes en train d'implanter 250 000 plantilles dans chaque territoire, des cafés, des cacao, des palmiers. L'objectif pour nous, c'est que nous voulons que toute la population puisse s'orienter non seulement dans les cultures vivrière, mais aussi dans les cultures pérennes, pour que cela l'aide pour sa propre croissance économique, mais aussi pour qu'il puisse avoir un peu d'argent.
Retour en Ituri, où les conditions de voyage dans les transports en commun sont jugées quasi inhumaines par de nombreux usagers. Certains véhicules prévus pour 5 passagers transportent jusqu'à 8, voire 10 personnes, et cela sur de longues distances pouvant atteindre 200 km. Une situation qui expose les voyageurs à la fatigue, au risque des maladies liées à la promiscuité, mais aussi aux accidents de circulation. Les détails avec David Mugisa.
Voyager à 8 ou à 10 personnes dans une voiture à destination de Beni, en Nord Kivu, de Mambasa, de Mahagi ou encore de Païda en Ouganda est devenu courant. Selon les passagers, les transporteurs cherchent à maximiser leurs recettes au détriment de leur santé et de leur sécurité. Fatigue, inconfort, risque de contamination, les plaintes sont nombreuses.
Transporter trop de personnes dans un véhicule les oblige à s'asseoir dans des mauvaises conditions, souvent coincées. Cela favorise la propagation de certaines maladies contagieuses liées notamment à la transpiration et à d'autres facteurs. C'est une situation déplorable.
De leur côté, les chauffeurs et responsables d'agences des transports pointent du doigt les services de l'État. Ils dénoncent la multiplication des taxes et des barrières routières qui les contraignent, selon eux, à surcharger les véhicules pour rentabiliser leurs activités.
La route, on paye. On paye des fourneurs, on peut arriver à commande, nous sommes en train de dépenser 17 dollars. Et puis il y a le prix du carburant qui a augmenté. Le gouvernement provincial aura vraiment la solution sur ça. Nous aurons aussi comment est-ce qu'on peut régulariser leur situation.
Pour l'instant, aucune réaction officielle des autorités compétentes n'a été enregistrée sur cette question.
La semaine française confirme une fois de plus son rôle de carrefour stratégique entre la RDC et la France. Bien plus qu'un simple salon, cet événement s'impose comme une véritable plateforme d'échange économique, culturel, institutionnel. Hier jeudi, à l'occasion d'une conférence organisée dans le cadre de la 9e édition, placée sous le thème RDC-France, perspectives partagées, décideurs publics, investisseurs et chefs d'entreprise se sont réunis pour renforcer les partenariats et explorer de nouvelles opportunités dans des secteurs clés comme les mines, l'énergie, les numériques et l'agroalimentaire. Nancy Atambo, reportage.
La semaine française joue son rôle de carrefour stratégique entre la République démocratique du Congo et la France. Des échanges économiques fructueux ont eu lieu entre les entreprises congolaises et françaises en vue de développer les expériences. Mais tous ces efforts sont entravés par certaines difficultés. Bertrand Bisengimana, président de la Chambre des commerces franco-congolaise, évoque le principal défi lié au climat des affaires.
Dans tous les pays, vous avez des obstacles dans le développement économique, mais il faut plutôt voir, je dirais, le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. La République du Congo regorge d'énormes potentialités, d'énormes besoins, et je pense que les entreprises françaises peuvent venir pour prospecter, et à mon sens, il n'y a pas que des investissements qu'elles peuvent réaliser en RDC, mais il y a aussi une offre de biens.
Pour sa part, l'ambassadeur de France en RDC, M. Rémi Maréchaux, met en avant les priorités des coopérations et les soutiens aux initiatives locales.
Nous avons conclu une feuille de route avec le gouvernement congolais qui précise les quatre domaines prioritaires sécuritaire, d'intervention de la coopération française. Et ça, ce sont des domaines qui correspondent aux intérêts communs.
Pour conclure, les deux parties ont convenu d'une coopération économique afin que la semaine française de Kinshasa demeure un rendez-vous pour le renforcement des relations entre la RDC et la France.
Actualité internationale.
À Madagascar, trois semaines après la publication du rapport explosif de la Cour des comptes mettant en lumière des détournements massifs des fonds publics sous les régimes précédents ainsi que l'existence des comptes occultes, la société civile entend maintenir la pression sur les nouvelles autorités pour que toute la lumière soit faite.
L'invité.
Notre invité est Vianney Bissimwa, bénévole et membre du comité d'organisation du festival Amani. La 11e édition a bel et bien démarré ce vendredi au complexe scolaire Kiwele de Lubumbashi. Vianney Bissimwa s'entretient avec Jean-Marc Matwaki.
Vianney Bissimwa, bonjour.
Bonjour.
Le festival Amani 11 se déplace, débarque à Lubumbashi. Qu'est-ce qui a motivé le choix de Lubumbashi comme ville pour abriter cet événement qui est devenu même le symbole de la ville de Goma?
L'audace. L'audace d'espérer, l'audace d'essayer. Nous avons dit quelle est la ville qui est prête à accueillir. Lubumbashi nous a accueillis. Ça aurait pu être n'importe quelle autre ville de la RDC. Mais Lubumbashi a eu l'audace et a très vite effectivement pris la balle au bon. Lubumbashi est une ville culturelle. J'ai découvert pendant mon court séjour ici beaucoup de centres culturels. Il y a toute une industrie culturelle qui se développe. On n'a pas besoin de festivals pour savoir. Peut-être que c'est caché que les gens ne voient pas, mais j'ai découvert qu'il y a plus d'une dizaine de centres d'incubateurs culturels. Lubumbashi est connue souvent comme la capitale minière. Maintenant, effectivement, elle va être reconnue pour ce qu'elle a toujours été, aussi la capitale culturelle. Et que donc, c'est ça le choix qui nous a motivés. Et nous sommes très contents parce qu'on a été bien accueillis. Et moi, je ne regrette pas le choix qu'on a fait.
Il y a quelques artistes qui reviennent pour cette édition, notamment Youssoufa, Inosbi, Ferregola également. Qu'est-ce qui a motivé la sélection des artistes qui vont animer cette 11e édition?
Encore une fois, c'est très simple. C'est eux qui ont pu répondre rapidement. Pour la petite histoire, il y a 2 mois, nous avons décidé que nous n'allons pas avoir une 2e année sans festival. Et donc, il y a 2 mois, nous avons contacté les artistes, parmi lesquels ceux qui ont déjà présté au festival, et de nouveaux artistes que nous avions à l'esprit. Et ceux que vous avez cités, Ferregola, Inosbi, Erji, Kanyera, Youssoufa, et les autres ont répondu rapidement.
Spiloulou, DJ Spiloulou aussi.
Et d'ailleurs, c'est eux qui ont dit, nous, on est les enfants de Lubumbashi, nous, on va l'avoir à Lubumbashi. C'est vraiment ça la motivation.
Il y a aussi les habitués de ce festival, dont Voldy Mapen.
Exactement, la jeune prodige de Goma. Donc oui, effectivement, c'est vraiment les artistes qui ont répondu le plus rapidement possible et qui ont dit, on y va. C'est ce qui explique le choix. Mais je pense que ce qui nous rassure, nous, c'est que nous avons réalisé en parlant avec eux que finalement, c'est des amoureux du festival. Et ils n'attendent que ça pour pouvoir nous accompagner. Et j'aimerais utiliser votre micro pour leur dire notre reconnaissance. Il y en a qui ne seront pas là, mais qui auraient bien voulu être là, qui avaient des dates déjà bouclées et des rendez-vous déjà pris. Mais ceux qui sont là, vraiment, c'est un grand signe de soutien pour nous. Et la raison pour laquelle ils sont là, c'est qu'ils aiment le festival, ils étaient disponibles, ils ont répondu en premier pour saisir la balle au bon.
Alors, le fait que la première ministre elle-même va donner les go, va lancer les activités de la 11e édition du festival Amani, vous en tant qu'organisateur, qu'est-ce que ça vous fait comme effet?
C'est un grand signal, ça démontre le soutien du gouvernement à cette édition, à la culture, mais aussi et surtout au vivre ensemble. C'est un signe effectivement de l'espoir, c'est un signe que malgré les difficultés, eh bien, elle se tient aux côtés de ceux qui osent malgré les moments difficiles. Donc pour nous, c'est vraiment un signe d'encouragement et ça nous réconforte dans notre démarche de dire nous pouvons oser et derrière avoir le soutien jusqu'au niveau le plus élevé.
3 jours de danse, des musiques, il y a aussi les côtés entrepreneuriat pour la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Qu'est-ce qui peut être considéré comme apport du festival Amani dans ces longs processus du retour de la paix dans la sous-région des Grands Lacs et surtout dans les nord et sud qui vont.
L'espérance de dire que malgré les difficultés, nous avons le courage de nous réunir, d'être ensemble et de continuer à travailler dur. Et je pense que vous savez, une des choses que la guerre vous prend, une des choses que le conflit armé vous prend, surtout un conflit qui dure 3 décennies, une chose que le conflit vous prend, c'est l'espérance. Les gens perdent la vie de vivre, les gens sont découragés, ainsi de suite. Mais ce que nous voulons, nous vraiment ce que nous voulons, c'est l'espérance. C'est la première chose que nous communiquons. Nous pensons que c'est une maigre contribution. Mais aussi l'écosystème culturel, les industries culturelles qui sont là, nous pensons que c'est important. Et vous savez, les artistes jouent un très grand rôle. Quelqu'un a dit que la culture, c'est la seule chose qui reste lorsque tout a disparu. Et nous pensons qu'en faisant ce festival, les artistes veulent montrer que c'est la culture qui demeure. Mais si le Congo est reconnu, moi j'ai passé plus de 5 ans en Afrique de l'Ouest, notre musique, notre culture, c'est notre ambassadeur itinérant numéro 1. Et donc investir dessus, le promouvoir, c'est magnifique.
Que pensez-vous d'une certaine opinion qui pense que le festival Amani commence aussi à retrouver un côté business?
Je pense que ça fait sens et je pense que nous, on ne va pas se cacher. Il y a 3 ans, vous m'avez posé la question, je me serais embarrassé. Et j'aurais pu dire non, vous savez non. Les artistes nous ont dit, il ne faut pas regarder ou rougir lorsqu'on lit culture et business. On appelle même ça le showbiz. Mais nous, le festival, nous ne sommes pas dans le showbiz. Nous ne faisons pas du lucratif. Il n'y a que 2 éditions pour lesquelles on a pu faire des bénéfices et nous les avons versés au centre culturel. Nous, on ne fait pas de bénéfices. Mais nous voulons que les artistes fassent du bénéfice. Il est important qu'on commence à respecter le métier des artistes. Ceux qui produisent leurs chansons, ceux qui créent par leurs œuvres, doivent vivre de leurs œuvres. Et nous voulons être ce festival qui ne va pas avoir honte de demander aux gens investissez dans l'art, dans la culture. C'est notre ambassadeur itinérant numéro 1.
Après le Lubumbashi, quelle sera la prochaine ville qui va abriter le festival Amani?
Je ne vais pas répondre maintenant au risque que les gens de Lubumbashi me disent qui t'a autorisé de dire. Peut-être ici encore, pour une deuxième expérience où on va avoir plus d'engouement, plus de motivation. Les gens demandent qu'on revienne encore. Ça fait 2 mois qu'on a lancé cette idée et l'a pris. Peut-être ici, peut-être Goma, peut-être ailleurs. On verra bien.
Vianney, merci.
Merci à vous.
C'était l'invité de ce journal, Vianney Bissimoua, bénévole et membre du comité d'organisation du festival Amani. Il s'entretenait à Lubumbashi avec Jean-Marc Matouaki. Fin de ce journal qui a été préparé par Jean Gandou et Richard Junior Kamunga. Pierre Diassinois et Diedonou Nyangasa ont été à la technique. Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi. Bonsoir chez vous.